BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, nous recevrons Mathieu Gallet qui vient de lancer sa plateforme de podcast. Ça s'appelle Magellan. On fera le point à cette occasion sur le business model de toute cette économie du podcast. Valérie Potin qui signe l'édito de la semaine reviendra sur cet amendement déposé par deux députés qui veulent faire interdire la pub pour les véhicules les plus polluants. Et puis on s'intéressera aux relations entre les marques et la Coupe du Monde de foot féminin avec Gabriel Gauthier, fondateur et président de l'agence Jésus et Gabriel, et Gilles Galinier, directeur de la communication externe d'Arkema. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et pour les news, Marie Valogne. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Alors, cette semaine, pour ses 10 ans, Glidden nous raconte l'histoire de l'infidélité.
Et l'infidélité a toujours existé. Et il n'y a pas que les hommes qui sont infidèles. C'est en tout cas le message de Glidden dans sa nouvelle campagne d'affichage. Le site de relations extra-conjugales remonte le temps et affiche les grandes dames infidèles. Cléopâtre qui avait aussi César comme Jules, ou encore la reine Margot qui n'avait pas qu'un seul Henri dans sa vie. Une campagne sur le ton de l'humour imaginée par l'agence Brigitte.
Humour aussi avec la nouvelle campagne de Pepsi, avec un film assez absurde quand même.
Pepsi tente d'envoyer deux acteurs dans l'espace, Paul Rudd et Michael Peña, pardon, en combinaison d'astronautes et installés dans une fusée. Le duo est prêt à partir. Le compte à rebours est lancé, sauf que l'un d'eux refuse de décoller sans embarquer une réserve de Pepsi avec lui. Il descend de la fusée et court vers le distributeur de canettes. Il n'a pas assez de pièges, il trébuche, il tombe. Pendant ce temps, son collègue fait l'impossible pour ralentir le départ de la fusée. La campagne est imaginée par l'agence AMV BBDO.
La RATP accompagne les lycéens dans leur préparation au bac.
Et oui, la RATP veut donner un coup de main pendant les révisions. Alors pour tester les connaissances des lycéens, elle lance sur les réseaux sociaux une série de questions, des questions en rapport avec les noms des stations de métro. Alors, petit exemple, général puis homme d'État, qui est le premier président de la 5e République ? Il s'agit bien sûr de Charles de Gaulle. Plus compliqué, une petite question pour Frédéric, pour s'amuser. Combien de députés compte l'Assemblée nationale depuis 1986 ?
577.
Bonne réponse.
Et voilà, et la campagne est orchestrée par l'agence We Are Social et Frédéric peut repasser le bac.
Ouf. Et puis les bébés Evian ne passent pas le bac mais font leur retour avec la campagne The Baby Bear Necessities.
Nouvel épisode de la saga des bébés Evian sur une réinterprétation de la musique du Livre de la Jungle. Il en faut peu pour être heureux. On découvre des bébés Evian modernes et très cool qui dansent, ils font du vélo, ils chantent, ils jouent au tennis. Bref, ils profitent de la vie. Evian met ici en avant son esprit Live Young, Vivons Jeune, et met aussi l'accent sur le recyclage. La campagne est signée BETC.
Frédéric, on n'arrive pas au bout du filon quand même avec ces bébés Evian. J'ai l'impression qu'on les a vus depuis ouf.
Oui, ça commence à faire. Ça commence à faire, mais c'est vrai que quand une marque comme ça surfe sur, c'est le cas de le dire, sur, une personnalisation aussi forte, elle a un petit peu de mal à,
la quitter.
Pour l'agence, c'est aussi, on va dire, une sorte de facilité, mais il y a aussi un challenge qui est de rester à la hauteur. Ensuite, chacun juge ce qu'il pense de cette nouvelle version.
Merci Marie, à la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Mathieu Gallet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Magellan, une nouvelle plateforme de podcast. Déjà, pourquoi Magellan ?
Magellan, parce que c'est le premier qui a permis de découvrir des continents qui existaient, mais qu'on n'avait pas trouvé parce qu'on n'avait pas le bon chemin. Et Magellan, le nôtre, avec un J, un seul L, c'est cette promesse de permettre aux auditeurs de découvrir les 285 000 émissions disponibles sur la plateforme, sur l'application Magellan, qu'aujourd'hui on a du mal à trouver, toutes ces créations audio qui existent. Pas parce qu'on n'avait pas les bonnes clés, on n'avait pas le bon chemin. Nous, on est là pour accompagner et permettre effectivement aux auditeurs de découvrir tous ces contenus.
C'est un Google, un Spotify du podcast ou c'est une offre complètement différente?
C'est une offre qui est inspirée effectivement de ce qu'on pense être les meilleures pratiques, les Spotify, les Netflix, les Molotov. C'est un moteur de recherche effectivement sur lequel on peut trouver. C'est un agrégateur sur lequel on peut trouver les émissions de radio à la demande. Les podcasts qu'on appelle natifs, qui sont des émissions créées spécifiques pour le digital. Et puis à côté, on a une offre par abonnement Magellan Plus qui permet d'écouter des contenus exclusifs qui eux ont été produits dans nos studios et qui se rapprochent plutôt du livre audio, de vraiment de l'audio narratif.
Vous parliez de contenus déjà existants type radio. Vous êtes d'ailleurs en conflit avec Radio France, je crois, qui refuse que vous utilisiez leur contenu. Vous en êtes où? Vous allez les retirer de votre plateforme?
Alors moi, ce que je dis, c'est qu'une start-up comme Magellan, qui s'est créée donc il y a maintenant quelques jours, qui est disponible depuis quelques jours, qui est financée par des fonds français, créés par deux Français, Arthur Perticoz, mon associé, et moi-même, qui se lancent dans ce marché pour permettre au marché justement de voir, rencontrer des nouveaux auditeurs avec tous ces contenus qui existent. Elle doit être traitée à égalité, à équité avec les plateformes étrangères, notamment les plateformes américaines. Aujourd'hui, tous les contenus des radios françaises sont disponibles gratuitement sur l'ensemble de ces plateformes internationales. C'est le cas sur Magellan. Donc moi, je demande vraiment une équité de traitement, notamment de la part du service public français.
Ensuite, comment est-ce que ça va fonctionner sur le plan économique? Parce que le podcast est incontestablement, c'est d'où le nom Magellan, comme vous dites, une terre nouvelle, une terre de conquête formidable. Un média qui ne s'y intéresse. Et pourtant, pour le moment, on ne voit pas tellement comment est-ce que va fonctionner d'un point de vue économique.
C'est un marché qui aujourd'hui s'organise autour de la publicité. C'est vrai que nous, on ne touche pas du tout à la publicité. C'est-à-dire tout ce qui est gratuit sur Magellan, s'il y a de la publicité, on ne la retire pas. Si on n'a pas, on en a pas. C'est une façon de monétiser. Et à côté, effectivement, il y a la proposition Magellan Plus, qui est un abonnement, qui est un achat à l'acte. En fait, vous pouvez acheter une série à 1,99€ ou avoir l'abonnement pour 4,99€. On a été inspiré par ce qui se passe en Chine, parce que tout le monde a les yeux braqués sur les États-Unis, qui est un marché important pour le podcast. Déjà, 30% des Américains en écoutent chaque mois. C'est environ $400 millions de recettes publicitaires. En Chine, oui, c'est plus de 7 milliards. En Chine, c'est 7 milliards. Et c'est 7 milliards avec essentiellement de l'achat à l'acte ou de l'abonnement. Et c'est ce marché aussi qui nous a inspiré, puisque Magellan, c'est une entreprise française créée par des Français, mais c'est pas une entreprise qui a vocation à être française. Elle est déjà internationale. On est disponible dans 5 pays, sur les stores de 50 pays, et on est multilingue. Donc vraiment, notre vocation, elle n'est pas de rester française, mais très vite de partir à l'international, au-delà du marché français et francophone.
Pour rejoindre la question de Frédéric, j'ai regardé un peu quand même vos tarifs, c'est 4,99€ par mois, c'est ça? Et vous dites qu'on peut acheter une série à 1,99€.
C'est ça.
En même temps, vous faites travailler des grandes voix du milieu médiatique. J'imagine que tout ça a des coûts de production assez lourds. Est-ce qu'avec des tarifs aussi vous allez pouvoir...
Aujourd'hui, on est dans un marché de conquête, comme vous le disiez. D'abord, c'est trouver et convaincre
la masse,
les auditeurs de découvrir tout ce qui existe dans le gratuit. Et c'est énorme, et c'est 99,9% de l'offre Magellan. Et à côté, pour aller plus loin, vous avez cette option, Magellan Plus, avec des contenus qui sont très produits, effectivement, avec des auteurs qu'on rémunère, avec de la musique, du sound design. Vraiment, un travail de production qui nous rapproche du livre audio. On a des nouvelles de Maupassant, par exemple, qui sont lues par des personnalités de la télé. Et là, on a la chance quand même, dans l'audio, d'avoir des coûts de production qui sont très inférieurs à ce qu'on peut connaître dans le monde de la vidéo ou la télévision. C'est ce qui nous permet effectivement d'avoir ce premier niveau d'expérience qui se rapproche plutôt du livre audio. Parce que si on doit faire du podcast payant qui ressemble au gratuit, franchement, il n'y aura jamais de modèle. Donc c'est pour ça qu'on a choisi vraiment d'aller sur un format qui est beaucoup plus travaillé et donc plus coûteux, mais qui reste quand même dans des coûts tout à fait raisonnables par rapport à la télévision ou à la vidéo.
J'avais dit, comme agrégateur, est-ce que vous vous donnez des critères de qualité des podcasts que...
Non, on est vraiment, nous on est là pour faire découvrir avec des playlists thématiques qui vont se rapporter à des moments de la journée, à des humeurs, à l'actualité aussi. On est là pour mettre en avant les nouveautés. C'est vrai qu'on est vraiment là au service des créateurs et des nouveaux créateurs qui se lancent dans le podcast, parce que le podcast, c'est aujourd'hui à l'audio ce que le blog a été il y a 20 ans à l'écrit, ou YouTube il y a 10 ans à la vidéo. C'est vraiment, donc c'est un foisonnement de créateurs. C'est ça qui est intéressant. Nous, on est là pour faire découvrir toute cette offre, et vraiment sur cette partie gratuite, on ne monétise rien. On est là vraiment pour aider le marché à se structurer, à se développer. Parce que si on n'a pas à un moment un cercle vertueux où des auditeurs rencontrent de plus en plus nombreux une création, sinon le marché ne se développera pas. Et nous, on est là pour ça.
J'ai lu que vous refusiez de faire du brand content, c'est vrai ?
Oui, alors nous, on n'est pas sur ce modèle de brand content. Il y a des studios en France qui existent, qui font du brand content, qui le font très bien. C'est vraiment pas notre business model. Notre business model est vraiment sur l'abonnement et sur la distribution de contenu tiers sur la partie Magellan+.
Et il y a quand même énormément, Frédéric le disait, énormément de médias qui font déjà des podcasts, qu'on peut retrouver notamment sur Deezer par exemple, ou sur Spotify sans doute aussi. Il y a les marques qui s'y mettent, il y a des personnalités. Comment est-ce que vous allez décider finalement le consommateur lambda d'aller plutôt chez vous que d'aller directement sur d'autres plateformes ou sur d'autres sites ?
L'exhaustivité, la capacité facilement à découvrir de nouveaux contenus, à retrouver aussi ceux que l'on aime, parce qu'il y a aussi des fidèles. On a vraiment travaillé sur un design très facile. Il n'y a pas de mode d'emploi, vraiment tout doit être intuitif. On a beaucoup travaillé sur le visuel aussi. On est dans l'audio que l'aspect visuel ne doit pas être important. Et nous, on veut créer une expérience pour l'utilisateur qui se rapproche effectivement de celle de Netflix, de Spotify ou de Molotov. Aujourd'hui, dans l'audio parlé, personne n'a créé cette expérience-là. Et c'est vrai qu'on trouvait des bibliothèques assez froides. Nous, on est là pour réchauffer tout ça, pour donner envie.
N'empêche que ce qui vous fera gagner de l'argent, on est d'accord que c'est la partie payante. Donc, il va falloir
Ça va prendre du temps.
Ouais.
Notre enjeu, il est aujourd'hui de vraiment convaincre des utilisateurs. On n'a pas de rentabilité à court terme. Évidemment, on est là pour montrer qu'il y a un début de modèle économique sur le payant. Je vous ai dit que le marché chinois nous avait inspiré de ce côté-là. Et c'est un premier niveau, c'est une première version. Elle marche bien, mais elle sera encore améliorée dans les jours et les semaines à venir. On a eu beaucoup de retours des utilisateurs et on l'améliore en permanence en tenant compte vraiment de ce que nous disent les utilisateurs de Magellan.
Alors je ne sais pas comment c'est en Chine puisque vous comparez les deux cultures, mais en France on a quand même pris la mauvaise habitude que tout soit à peu près gratuit, notamment sur le web. Et comment est-ce que vous allez gérer ça ?
On voit qu'il y a des choses gratuites puis il y a des choses qui sont payantes. Quand vous voyez les offres de streaming musical, en 10 ans, elles ont réussi à convertir toute une génération qui s'était habituée à écouter la musique en la piratant, donc en ne le payant pas. 10 ans après, regardez Spotify, la moitié des utilisateurs de Spotify aujourd'hui sont des abonnés payants.
Donc, après, ils n'achètent plus de CD non plus. Il y a un transfert.
Oui, mais c'est ça. Mais il y a eu transfert, mais les maisons de disques aujourd'hui, pourquoi est-ce que Universal Music vaut entre 20 et 30 milliards de dollars aujourd'hui ? C'est parce que les offres de streaming ont permis justement aux maisons de disques de pouvoir effectivement trouver un nouveau modèle économique, que les créateurs ont trouvé des vrais relais de croissance. C'est un nouveau modèle. Nous, on est en train de créer ça vraiment au niveau de l'audio parlé pour permettre à des créateurs de trouver un nouveau public et de pouvoir vivre aussi de leur création et de ne pas rester dans un monde finalement qui serait un peu comme les radios associatives, les radios libres au début des années 80. Après, il y a une structuration du marché. Nous, on est là, effectivement, pour aider ce marché à grandir, à se structurer.
Merci beaucoup, Mathieu Gallet. Je rappelle que vous êtes donc le président de Magellan.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, c'est avec Valérie Potin. Bonjour, Valérie.
Bonjour.
Alors, on parle aujourd'hui de cet amendement déposé par deux députés qui veulent faire interdire la publicité pour les véhicules les plus polluants.
Voilà, alors il s'agit en fait d'un amendement qui a été déposé par les deux députés écologistes Delphine Bateau et Mathieu Orphelin, et qui s'inspire en fait de la loi E20. Alors, non pas pour interdire la publicité, la communication des constructeurs automobiles, mais plutôt pour l'encadrer. Cet amendement, il est né en fait d'un constat qui est que aujourd'hui, l'essentiel des investissements publicitaires des constructeurs, là on parle de 3,5 milliards d'euros quand même par an, il est consacré cet investissement à la promotion des véhicules qui sont certes les plus vendus, mais qui sont aussi les plus polluants, en tête desquels évidemment les SUV. Donc ce qu'ils proposent finalement dans leur amendement, c'est d'inciter et d'obliger même les constructeurs à concentrer leur investissement pour la promotion des véhicules les moins polluants, c'est-à-dire ceux qui émettent moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre. En gros, c'est 10% du parc automobile, c'est-à-dire les véhicules hybrides et les véhicules électriques.
C'est plutôt brutal comme proposition, non ?
C'est assez brutal et c'est un petit peu d'ailleurs ce qui fait que l'amendement a assez peu de chances de passer. Cet amendement, en fait, il a principalement pour objectif de créer ou d'entretenir le débat sur la transition énergétique dans le cadre de la loi mobilité. Il y a un autre point de faiblesse en fait dans cet amendement aussi qui est important, c'est que cet amendement il semble considérer l'automobile comme un bien de consommation courante comme un autre, c'est-à-dire comme un Nutella. Or, même si c'est vrai que les constructeurs, depuis quelques temps, essaient de nous faire passer l'achat d'une voiture comme un acte banal, hein, comme peut l'être l'achat d'un téléphone ou d'un abonnement téléphonique, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines sur ce plateau, la réalité c'est qu'on n'achète pas évidemment sa voiture après en avoir vu la publicité à la télévision. La voiture, ça reste un achat qui est très engageant, mais certainement pas un achat dit d'impulsion.
Mais en admettant que ça passe, est-ce que ça aurait un impact sur le marché publicitaire?
Alors, les incidences a priori serait très limitée, voire nulle. En fait, ce que ferait la loi, donc si c'était une loi, c'est qu'elle elle obligerait tout au plus les constructeurs à réaffecter leurs investissements, ça on l'a dit, sans forcément les réduire du coup, et elle leur imposerait, ou les obligerait plutôt à revoir leur copie publicitaire. Alors ils pourraient la revoir soit au profit de leur véhicule propre, qui deviendrait, alors pour ceux qui ont une offre suffisamment conséquente, bah, des outils d'image, voire des produits d'appel qui permettraient de faire venir en concession des clients. Et pour le coup, le constructeur pourrait leur proposer n'importe quel type de véhicule, oui, polluant d'ailleurs ou non polluant. L'autre option, ce serait de faire évoluer la communication font déjà certains constructeurs sur des campagnes d'image, des campagnes de marque. Et là, du coup, on verrait des constructeurs nous vendre non plus une voiture, mais un univers, un style de vie, un état d'esprit. Mais en fait, là, si on regarde bien la réalité ou la solution, elle est ailleurs, la vraie réponse, elle est ailleurs, elle est chez les industriels qui, de toute façon, vont devoir être en mesure, tôt ou tard, de proposer une offre crédible, une offre qui soit financièrement accessible et qui soit aussi suffisamment large, d'une part pour permettre justement de nourrir la création publicitaire, mais aussi tout simplement pour donner aux consommateurs un choix suffisamment large pour leur donner envie de passer justement de l'autre côté. Donc du coup, on a encore un petit peu de temps pour le moment.
Merci Valérie Poitain.
BFM Business, Hebdocom, le Zoom.
Cette semaine, avec Frédéric, on a choisi de s'intéresser à la Coupe du Monde de foot féminin. Le succès d'audience de cette compétition dépasse tellement les attentes que TF1, cette semaine, a relevé ses tarifs publicitaires de plus de 50% pour le match de l'équipe de France. On en parle avec Gabriel Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et président de l'agence Jésus et Gabriel. Et Gilles Galinier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la communication externe d'Arkema. Arkema qui est sponsor justement de cette compétition. Vous êtes un groupe français de chimie peu connu finalement du grand public. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme ça d'aller sur cet événement? C'est assez inattendu finalement de votre part.
Oui, c'est vrai que peu de gens nous attendaient sur ce territoire du foot féminin. C'est important pour une entreprise comme Arkema de chimie, de B2B, quelquefois ou de temps en temps, de s'afficher dans des événements qui ont une portée internationale forte, et surtout de surcroît dans un événement qui fait la part belle à la place des femmes dans le sport, dans le foot. Et on y a trouvé un parallèle assez intéressant entre le besoin de faire une place peut-être plus marquée aux femmes dans le sport et aussi dans l'industrie. Et c'est un vrai levier pour nous d'expression sur ce sujet-là.
Et Gabriel Gauthier, vous avez fait au moment du lancement de la compétition un film, une campagne de publicité avec 7 annonceurs. C'est la première fois qu'on fait ça au moins en France?
Alors je ne sais pas si c'est la première fois. En tout cas, c'était pour moi, c'est une première. Je pense que pour TF1, c'est une première fois. Enfin, pour rappel, c'était à l'initiative de la régie de TF1. Alors, on avait fait un film avant qui montrait justement tous les Français qui disaient on sera là. Enfin, sur le thème de présent, on va y aller. Et là, on s'est dit, ce qui était intéressant, c'est de se dire que derrière les sponsors, derrière les marques, il y a quand même des gens qui travaillaient, des qui montaient sur les pylônes pour EDF, qui tressaient des brioches pour et que c'était bien de dire que c'était que des marques cotées en bourse, mais aussi qu'il y avait des gens derrière, avec cet enthousiasme qu'on voulait montrer à l'écran.
Justement, vous parliez de personnes humaines qui sont derrière ces marques. Vous, chez Arkema, vous avez fait aussi ce parallèle entre le parcours d'une jeune fille qui devient footballeuse et le parcours d'une jeune fille qui devient chimiste. Quelles sont les valeurs qui sont communes aux deux, selon vous?
Ce qui nous a intéressé dans cette association, avec cet événement, c'est qu'il y a des valeurs dans le sport et dans le foot féminin qui sont des valeurs un peu rafraîchissantes de simplicité, de spontanéité, pardon, et de proximité, qui sont parfaitement en phase, en fait, avec les valeurs du groupe Arkema. Et c'est vrai qu'on a retrouvé et on a voulu, à travers ce film, ces destins croisés, deux jeunes filles, une qui, très jeune, joue avec son microscope et deviendra dans le film une chercheuse chez Arkema, qui va travailler chez dans les matériaux, et c'est le vrai savoir-faire d'Arkema, c'est que de travailler des matériaux qu'on retrouve notamment dans les marchés du sport. Et à côté, cette jeune fille dans un vestiaire et qui devient Gaëtan Tinet et qui rentre et qui participe à cette Coupe du Monde de football. Gaëtan Tinet, on l'apprend plus de notre partenariat Coupe du Monde, comme une ambassadrice pour Arkema qui nous donne un lien entre les joueuses de l'équipe de France et qui nous fait vivre de l'intérieur aussi cette compétition.
Et les sportifs sont pas forcément les sportifs les plus qui attirent le plus les marques. Est-ce que cette Coupe du Monde peut changer quelque chose, le regard des marques sur les sportifs de haut niveau, et en particulier dans un sport très masculin qui est quand même le foot?
Ah bah oui, c'est ce qu'on espère. Enfin, c'est un petit peu l'enjeu de cette Coupe du Monde féminine. Il y a un petit peu un côté on a supporté. Enfin, il y a eu beaucoup de monde derrière la Coupe du Monde masculine, on va dire classique. Donc là, on espérait, moi j'attendais quand même aussi ce succès là, qui a lieu aujourd'hui. Moi j'y croyais beaucoup, il y avait un peu de scepticisme de droite et de gauche, mais je pense que justement il y a ce côté, les femmes ont soutenu les hommes, maintenant est-ce que les hommes vont soutenir les femmes? Donc je pense qu'effectivement, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit le sport pour le sport et non pas le sport au lieu des tarias. Et on ne connaît pas tous les noms des joueuses, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc, se dire finalement, au-delà du sport, au-delà du nationalisme, néant à préférer une équipe plutôt qu'une autre, il y a quand même aussi cette beauté du jeu, cet engagement. On voit des matchs assez intéressants avec des femmes qui courent plus que les hommes. On sent qu'il y a une envie de gagner, qu'il y a un plaisir qui n'est pas toujours présent dans ce qu'on a vu il y a un an, quoi, où on calcule, où il y a des stratégies. Ça fait plaisir, et pour les marques, c'est c'est un peu un retour aux sources du sport qui est vraiment intéressant.
Moi, je me demandais s'il n'y avait pas aussi le foot masculin quand même était marqué par quelques affaires de mœurs. On a encore un cas là en ce moment avec le cas Neymar, qui est fondé ou infondé, mais peu importe. Le fait est que parfois le foot masculin peut avoir aussi une image négative, et que du coup, il n'y a pas, en tout cas à ce stade, de problème chez les femmes.
Mais ça, c'est plus affaire de peopleisation. C'est aussi vrai pour la politique, pour tout. C'est-à-dire qu'on parle trop de la vie des gens d'une manière générale, donc fatalement ça arrivera sur les autres sports. Donc ça, c'est, je pense que c'est pas propre au sport en tant que tel, c'est plus propre à la médiatisation excessive tout et de chacun. Donc j'en ferai pas une affaire de foot. La vraie affaire du sport, c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore des équipes masculines et des équipes féminines, parce qu'on parle de parité, on est plus dans un système d'apartheid. Non, c'est-à-dire que dans l'armée, il y a plus de parité. Dans l'équitation, il y a plus de parité. Dans la course automobile, avant, quand Michèle Mouton gagnait des rallyes, elle
battait les hommes. Pour les femmes.
Et surtout, elle était dans le même pôle. Donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui, qui est la vraie question du sport, qui est extrêmement intéressante. Les stars, c'est sûr que ça va trop loin, mais c'est vrai aussi dans la musique, c'est vrai dans plein de trucs, c'est vrai dans la politique. On voit qu'on va chercher trop dans la vie privée des gens. Ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, nous, en tant que grand public.
Et Gilles Galinier, pour Arkema, qu'est-ce qui sera le signe de la réussite de votre engagement cette année dans la Coupe du Monde? Parce que vous, ce n'est pas le nombre de produits chimiques que vous allez vendre.
Non. Il y a plusieurs leviers. Il y a déjà l'engouement. Et je crois qu'une stratégie de sponsoring, elle passe aussi par la façon dont l'entreprise et l'interne le vit. Et l'engouement de l'interne est très très important. On a commencé une activation assez tôt. On a été le premier sponsor national à signer dès l'an dernier. Tant on croyait en ce projet, on avait envie de se préparer. C'était un sport nouveau et une approche nouvelle pour nous. Et donc, ce qui se passe en interne, on a une caravane qui fait le tour de pas mal de nos usines et le tour des fan zones, où on y joue deux cartes, une carte ludique sur foot, il y a des jeux et les gens gagnent des places et des goodies, mais il y a surtout un volet pédagogique où on explique avec un showroom itinérant quels sont nos produits, quelle est notre chimie, quelle est notre façon d'aborder ce métier de chimiste en termes de RSE, de recrutement, d'augmentation de la place des femmes dans l'entreprise. Et ça, on voit l'adhésion au fur et à mesure que cette caravane tourne dans nos usines et à travers la France. Après, on mesurera aussi, on le voit déjà, le nombre de... On est en train d'élargir notre base de followers sous tous nos comptes sociaux. L'intérêt l'interaction avec les publics est de plus en plus importante sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, ça participe à la bonne gestion et en tout cas à l'input positif de l'engagement d'Arkema dans ce sport, dans ce football au féminin qui nous va, j'allais dire, un peu comme un gant, tant ça match avec les valeurs qui étaient un peu expliquées tout à l'heure. C'est très simple, ces filles sont accessibles, elles apportent un sentiment de fraîcheur et de joie. On n'a qu'à voir, quand on voit la façon dont elles fêtent leur but ensemble, il y a de la solidarité. Il y a
une
aussi
façon
de la performance. Il faut pas aussi, par rapport au sport, au féminin, il faut pas se, notamment au foot, dans cette compétition. Et la performance est aussi clé. C'est un sport, c'est une compétition. Et elles le vivent et elles le vivent avec intensité.
Donc, c'est une façon d'attirer les femmes dans l'industrie aussi.
C'est possible aussi comme métier. On utilise énormément ce partenariat-là en termes de marque employeur. On a une vraie volonté, une proactivité en termes de recrutement des populations féminines, des jeunes femmes, et ce sponsoring nous permet d'aller expliquer que dans la chimie, on a besoin de chimistes, mais pas que. On ne recrute pas que des chimistes et on recrute aussi pas que des hommes. Il y a de la place pour les femmes et dans tous les métiers, et dans tous nos métiers, en usine, bien évidemment dans les fonctions plus corporate ou administratives et dans des fonctions de R&D. Donc depuis qu'on est sponsor de cette belle Coupe du Monde, c'est un moyen d'aller vers les jeunes étudiants et étudiantes pour expliquer qu'il y a des belles carrières à faire dans une entreprise comme la nôtre. Et d'ailleurs, on invite beaucoup d'étudiants sur les matchs là depuis une semaine et il y en aura d'autres jusqu'à la finale avec des jeux concours via les réseaux sociaux, via tous les salons qu'on a pu faire tout au long de l'année pour faire adhérer l'interne, l'externe, nos parties prenantes à l'ensemble de cette compétition.
Gilles Galinier, merci, directeur de la communication externe d'Arkema, et Gabriel Gauthier, fondateur et président de l'agence Jésus et Gabriel. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.